Alphonse Chabot, Noël dans les pays étrangers. Pays scandinaves. 8 jours avant la solennité de Noël, les places de Stockholm sont couvertes de sapins que les paysans coupent dans les forêts voisines et viennent vendre en ville. Toute famille, si pauvre soit-elle, a pour la grande veillée de son arbre de Noël orné de lumière et garni de joies et friandises de toutes sortes. Les pauvres ne sont pas oubliés. On organise pour eux des fêtes et ils reçoivent des vêtements d'abondantes aumônes en argent. En Norvège, la fête de Noël jouissait autrefois de certains privilèges. Ainsi, les poursuites de la justice étaient suspendues pendant plusieurs jours, le plus généralement de Noël à l'Épiphanie. Cette trêve de procès variait suivant les lois locales. Parfois, sa durée s'étendait jusqu'à 20 jours. Dans tous les pays scandinaves, la fête de Noël se prépare discrètement et dans le mystère, afin que les cadeaux offerts ce jour-là apportent à la fois surprise et contentement. En secret, les petites filles mettent la dernière main à leur travail. L'une a brodé une paire de pantoufles pour son père, l'autre un coussin de canapé pour sa mère. Leurs sœurs aînées enveloppent dans un fin papier blanc une bourse de soie faite au crochet et entourée d'une fave rose, ou encore confectionnent de belles et riches dentelles qu'elles offriront comme nappe d'autel à leur église. Dans quelques pays, la distribution des cadeaux est des plus originales. Le présent, dissimulé soigneusement dans une gerbe de fleurs, une botte de foin ou de paille, ou dans de multiples enveloppes d'étoffes de feuillage ou de papier, porte en grosses lettres le nom de la personne à laquelle il est destiné. Le messager, chargé de le remettre, frappe fortement à la porte, qui s'ouvre sans retard, et jette furtivement le julklapp, c'est le nom suédois du présent, dans la chambre où la famille se trouve réunie. Alors commence une scène fort distrayante. Le destinataire se met à explorer minutieusement, au milieu des cris de joie de tous les assistants, fleurs, foin, paille, feuillage ou papier, afin d'arriver à l'objet convoité. Tantôt il trouve une épingle d'or, tantôt un vase précieux, quelquefois une élégante et gracieuse statuette, quelquefois aussi, après avoir déroulé les enveloppes mystérieuses, il ne trouve rien. Une explosion de rire accueille la déconvenue du patient, victime de cette innocente supercherie. Le julklapp a quelquefois un caractère moral et satirique. La dame trop élégante reçoit une poupée bizarrement attifée. Le châtelain qui, dans son salon, ménage trop la lumière ou laisse son antichambre dans l'obscurité, reçoit une douzaine de lampions. Un bavard, on adresse un oreiller ou un éteignoir, un fat, un col d'acier. Quand il ne reste plus rien au fond de la corbeille, que les enfants ont bien cherché dans les papiers éparpillés sur le plancher pour voir si l'on n'aurait rien laissé, la famille se rend à la salle à manger où l'attend un souper composé exclusivement de mets nationaux. Au pays scandinave, le repas de Noël se distingue des autres par le caractère traditionnel des plats qui y figurent. Pas de souper de Noël sans jambon, accompagné de riz chaud, arrosé de lait froid. Puis du ventbrod, sorte de pain fait avec de la farine de froment, délayé dans de la bière non fermentée. Enfin l'indigeste Lustfisk. Qu'on s'imagine une merluche ou morue sèche dessalée, bouillie pendant 3 jours dans une eau de cendre mêlée de chaux vives et farcie ensuite avec du poivre, de la moutarde et du réfort. Voilà le Lustfisk. Les vins d'Espagne, fortement alcoolisés, peuvent seuls faire digérer un si plantureux repas. Le soir de la veille de Noël, vers 11 h, dans les hameaux, tout le monde monte en traîneau et se rend à l'office. 1000 étoiles scintillent dans le silence de la nuit, troublées seulement par les grelots des chevaux qui font craquer la neige sous leurs pieds. Ordinairement, auprès de l'église du village, un vaste hangar offre un abri, des bancs pour les paysans et des râteliers pour leurs chevaux. Aussitôt l'office terminé, chacun regagne son logis au plus vite. Ce moment donne lieu en Finlande à une scène des plus divertissantes. Une vieille croyance promet la meilleure récolte de l'année à celui qui rentrera le premier dans sa maison après l'office de Noël. C'est alors toute une conspiration contre les équipages. Les jeunes garçons sortent furtivement de l'église pendant l'office, détellent les chevaux, lient les traîneaux, les uns avec les autres, changent les colliers, embrouillent les harnais, etc. On conçoit le désordre qui s'ensuit, des cris, parfois des coups. La place de l'église se change en véritable champ de bataille. Enfin, les traîneaux sont retrouvés, chacun répare son attelage et part au galop. Le combat finit par une course au clocher. Dans la plupart des campagnes, les ménagères veillent à ce que, pendant les fêtes de Noël, l'ordre et la propreté règnent dans toutes leurs demeures. Il est d'usage de joncher les dalles de paille fraîche, ce qui donne à la chambre de famille l'aspect d'une grange où l'on a étendu les gerbes avant le battage. Est-ce en souvenir de la paille et de la pauvreté de la crèche? Nous serions portés à le croire. Quoi qu'il en soit, cette paille de Noël a, dit-on, une vertu merveilleuse. Les animaux qui en mangent sont préservés de toute maladie pendant l'année. En Suède, les paysans veulent que tous les animaux prennent part à la solennité de Noël. Ce jour-là, dit M. Léouzor le Duc, ils donnent la liberté aux chiens de garde, ils servent à leurs bestiaux à fourrage d'élite. C'est un usage assez répandu, en Suède et en Norvège, d'offrir le jour de Noël un repas aux oiseaux. La dernière gerbe de la moisson est soigneusement conservée, chez les pauvres comme chez les riches, jusqu'à la veille de la grande solennité. Le 25 décembre, au matin, on la fixe au bout d'une perche et on en décore le pignon de la maison. C'est un charmant et étourdissant concert que celui de la gente granivore, faisant tapage autour de ce mât pour picorer les épis de blé. Tous les petits habitants de l'air prennent eux aussi leur joyeux festin et rendent grâce à la Providence qui, dans un jour si heureux, a voulu les combler d'allégresse. Cette ravissante coutume suédoise nous rappelle ces deux vers si connus. Aux petits des oiseaux, ils donnent leur pâture, et sa bonté s'étend sur toute la nature. Racine, Athalie, acte 2, scène 7. Un de nos meilleurs poètes a gracieusement chanté ce réveillon des petits oiseaux. Et les oiseaux des champs, ne feront-ils la fête? Eux que l'hiver cruel décime tous les jours, eux que le froid transit, que la famille guette sur l'arbre dépouillé du nid de leurs amours. Oh non! Pour eux l'on cherche une gerbe emmêlée, où des milliers d'épis se courbent sous le grain, on l'étend sur la neige. Accourez, gens ailés, car votre nappe est mise et prête le festin. Et vous voyez d'ici le pinson, la fauvette, le menu roitelet voleter à l'appel. Tous en mangent le grain, ils relèvent la tête pour lancer une gamme, un cri de joie au ciel. Comtesse O'Mahony. Angleterre. Le peuple anglais célèbre la solennité de Noël avec une telle joie, une telle unanimité et de telles dépenses qu'on peut regarder le Christmas. La vieille désinence mass signifie fête, Christmas, fête du Christ, comme sa fête nationale. Autrefois, à l'occasion de Noël, avait lieu une fête carnavalesque. Des carols, des chansons anglaises, nous font connaître les personnages mis en scène dans ces mascarades. Le roi de la bombance, la reine de la folie, la princesse des raisons y paraissent au milieu d'un bruyant cortège. À la cour, chez les princes, un officier était chargé de présider aux réjouissances. Il s'appelait Lord of Misrule, le seigneur du désordre. En Écosse, on le nommait Abbot of Unreason, l'abbé de la déraison. Ces fonctions ont été abolies par Act of Parliament en 1515. Les prêtres durent plusieurs fois s'interposer contre les frivolités de ces amusements. Dans les recueils de folklore, on parle des joyeuses bandes que conduisaient pendant les fêtes de Noël le roi de la déraison et la princesse de l'abondance. Sous de folâtres déguisements, les amis du voisinage venaient sans honte tendre la tirelire de Noël à la reine de la fête et demander largesse de joie, de gaieté, de rire, au monde de plaisir. Hélas, qu'ils sont loin, aujourd'hui, ces jours où Henri II servait à table son fils, roi du festin, et lui apportait au bruit des trompettes, comme plat d'honneur, une tête de sanglier, qui, couronné de laurier ou de romarin, enterrait ses formidables défenses dans la pomme fleurie ou l'orange dorée. Et comme il est passé le temps où 130 des citoyens les plus puissants de Londres, revêtus de costumes et de titres fantastiques, rois, reines, ministres choisis par la folie, cavaliers galopant sur de fringants coursiers, sonnant des fanfares, couraient à Kensington à la rencontre du petit-fils d'Édouard Ier, tous réunis dans une même joie, chantant Noël. La lugubre réforme a soufflé sur toutes ces joies, éteint toutes ces lumières et faussé toutes ces trompettes. L'illustre Walter Scott nous dit que ses ancêtres regardaient déjà Noël comme la fête familiale par excellence. L'Angleterre était la joyeuse Angleterre, quand le vieux Noël ramenait ses jouissances. C'était Noël qui mettait en Perse la bière la plus forte. C'était Noël qui racontait le conte le plus joyeux. Les ébats de Noël souvent réjouissaient le cœur du pauvre pendant la moitié de l'année. D'immenses préparatifs sont faits en vue du Christmas. De jolies cargaisons d'oies grasses viennent de Normandie. Deux lignes de steamboats de Dieppe à Newhaven et du Havre à Southampton suffisent à peine à leur transport en Angleterre. Le Poitou et la Touraine en volent également à John Muller d'Anne Pansu. En 1901, une petite province du centre de la Sologne a expédié à Londres par chemin de fer plus de 60 000 dindons. Les bateaux de Southampton et de Newhaven prennent à Granville et sur toutes les côtes de la Manche des monceaux de gui, cette plante parasite que les eubages chez les Gaulois allaient couper avec des faucilles d'or. On les dépose dans de grandes caisses à claire-voie, connues sous le nom de haras, et on le transporte sur le pont des navires. On se prépare plusieurs semaines à l'avance au Christmas, dit M. Alphonse Esquiros. D'immenses troupeaux d'oies s'acheminent gravement du nord de l'Angleterre par toutes les routes vers la métropole. Les grands bœufs annoncent leur arrivée sur les chemins de fer ou les bateaux par de lugubres beuglements. À Londres, quelques jours avant Noël, a lieu dans la grande salle d'Islington, connue sous le nom d'Agricultural Hall, une exposition des animaux que l'on vendra pour Noël. Bœufs, oies, dindons se disputent les premiers prix. Les mieux cotés vont ensuite orner de leur chair dodue les vitrines des industriels qui les ont achetés au poids de l'or. « La veille de Noël, dit M. Virmètre, tout Londres est illuminé. Les boutiques des bouchers, surtout, sont resplendissantes de lumière. On y voit des bœufs dépouillés, couchés tout entiers sur des tréteaux, avec des becs de gaz dans le mufle. On lit assez souvent, au-dessus d'eux, ces mots réclames, élevés par Sa Majesté la Reine. En effet, la Reine Victoria faisait paître des troupeaux à Windsor, à Hampton Court et même à Kensington Gardens, le bois de Boulogne de Londres. Le soir du 24 décembre, vers 2 heures, l'agitation devient extraordinaire dans les quartiers les plus populeux de Londres et surtout dans Whitechapel. Les cochers, juchés derrière leurs voitures, guident hardiment leurs chevaux. Les all right, tout va bien, retentit dans les conversations. Ce sont partout des entassements de volailles qu'on n'en voit pas dans les halles centrales de Paris. Louis Blanc, de sa plume vive et originale, nous a donné le tableau le plus pittoresque, le plus vrai qu'on ait jamais tracé du Christmas londonien. Quels énormes quartiers de viande, quelles montagnes de chair saignante, quel luxe d'imposants comestibles. C'est par myriades qu'on vous compte orgueilleusement étaler, ô sel de mouton, tête de veau, hure de sanglier, dindon, canard, oie, poulet, perdrix, faisan, pluvier, lapin, et vous, poissons de toute espèce et de toute grosseur. La brumeuse cité offre ce spectacle étrange d'une animation toujours croissante jusqu'au milieu de la nuit. Au Constitutional Club, l'un des cercles les plus importants de Londres, on fait rôtir chaque année pour le Christmas un énorme morceau de bœuf de 350 à 400 livres. C'est ce qu'on appelle le Baron of Beef. Les membres les plus distingués du club ne manquent pas, au cours de la nuit de Noël, de rendre visite au Baron of Beef. On voit alors, devant l'immense cheminée, les habits noirs des plus élégants fashionables se mêler aux vestes blanches et aux tabliers des cuisiniers. Pour le Christmas, le home, l'intérieur de la maison, reçoit une décoration spéciale. Les touffes de houx aux feuilles luisantes, égayées par leurs petites baies rouges, ornent les maisons les plus modestes, aussi bien que le château seigneurial. Les baies rouges, disent les vieilles chansons, couronnent agréablement la tête du sombre hiver. Des guirlandes de lauriers, de lierres et de fleurs entourent les lustres, les tableaux, les armures des ancêtres. Mais c'est le gui surtout. Mistletoe, destiné, dit-on, à mettre en fuite les sorciers, qui joue le plus grand rôle dans la décoration du Christmas. Qui n'a pas admiré les blanches entrecroisées de la blonde druidique? Les druides regardaient le gui, à cause de sa verdure perpétuelle, comme l'emblème de l'immortalité de l'âme. On le cueillait la 6e nuit de la nouvelle lune, après le solstice d'hiver. Cette nuit, appelée la nuit mère, commençait l'année gauloise. Un druide en robe blanche montait sur le chêne, une faucille d'or à la main, et tranchait la racine de la plante que d'autres druides recevaient dans une saie blanche, car il ne fallait pas qu'elle touchât la terre. Son feuillage d'un vert pâle semé de graines blanches et transparentes comme des perles de corail. Jadis, la veille de Noël, après la prière et les exercices de piété accoutumés, on allumait des cierges et, avec une grande solennité, le chef de la famille mettait dans l'âtre une bûche appelée Yule Log. Elle était allumée avec un tison provenant de la bûche de l'année précédente. Tant qu'elle durait, il y avait force rasade, chant et narré d'histoire. Cet usage existe encore, particulièrement dans le nord de l'Angleterre, mais accompagné de certaines superstitions. Si la bûche vient à s'éteindre avant la fin de la nuit, ou si, pendant qu'elle brûle, survient une personne qui louche ou soit pieds nus, cela est considéré comme de mauvais augure. Pendant la nuit de Noël, les chanteurs de Christmas Carols, les Christmas Carols sont nos Noëls, vont se faire entendre à la porte des maisons. On les désigne sous le nom de waltz. Les uns le font à titre purement gracieux, en l'honneur de leurs amis ou des membres de leur famille. Washington Irving, dans son excellent ouvrage « Le livre d'esquisse », nous raconte le trait suivant. Me trouvant chez un ami le matin de Noël, alors que j'étais encore au lit, j'entendis le bruit de petits pas qui résonnaient à ma porte. Bientôt un chœur de voix enfantine entonna ce vieux chant de Noël. « Réjouissez-vous, notre Sauveur est né, le jour de Noël au matin !» Je me levai doucement, ouvris promptement la porte, et je contemplai un des plus jolis groupes de fées qu'un peintre puisse imaginer. Il se composait d'un petit garçon et de deux petites filles. La plus âgée n'avait pas plus de 6 ans. Il ressemblait à 3 séraphins. Il plaisait le tour de la maison et chantait à toutes les portes. D'autres chanteurs s'en vont par les rues, mendiant pour eux-mêmes les quelques pence que la générosité des veilleurs veut bien leur donner. Dans quelques contrées de l'Angleterre, les enfants se réunissent pour aller de cottage en cottage, chanter l'église, chansons à refrain. L'un de ces chants populaires, au rythme vif et gai, a pour refrain ces paroles « Le joyeux, joyeux temps, le joyeux, joyeux temps, béni soit le joyeux, joyeux temps de Noël. » Cet usage des chants de Noël est des plus anciens, comme le prouve une carole anglo-normande que nous avons découverte dont nous citerons le premier couplet. Seigneurs, or entendez à nu, de loin sommes venus à vue pour requérir Noël. Car le menus dit que c'est en cet hôtel soleil tenir sa feste annuelle. Ah, c'est jure, Dieu donne à tous ces seuls jouant d'amour, qui à danse Noël feront honneur. Seigneur, à présent, écoutez-nous. De loin nous sommes venus à vous pour demander Noël. Car l'on dit qu'en cet hôtel, de coutume, on célèbre sa fête annuelle. Ah, c'est le jour, Dieu donne ici joie d'amour à tous ceux qui feront honneur au jour de Noël. Tallet de Marie de France. Max O'Reilly, qui avait fait un long séjour à Londres, dit dans son livre intitulé « John Bull et son île » Noël, c'est la grande fête de famille en Angleterre. En effet, dans toute famille anglaise, riche ou pauvre, on célèbre le Christmas par un repas où les mets sont servis en abondance. Le morceau de choix est d'abord Sir Loin, le seigneur à louaillot, que Charles II, dans un jour de belle humeur, avait nommé chevalier. Loin rôti, roast goose, est ensuite le plat préféré, quand la dinde rôtie Rush Turkey ne vient pas prendre sa place. Puis apparaît le signe culinaire de la nationalité anglaise, le fameux plum pudding. Hip hop, hurrah, honneur au roi du festin. La confection du pudding de Noël est des plus solennelles. Chaque membre de la famille tourne à son tour la pâte qui doit devenir le gâteau. Quelquefois, celui-ci prend des proportions pantagrues et héliques. Certaines corporations ont fait confectionner du pudding qui absorbe des centaines de livres de farine et de raisins de Corinthe. Au couvent de Ewell, nous écrit un de nos amis, nous organisions nos fêtes suivant les coutumes anglaises et françaises, anglaises pour le côté profane et françaises pour le côté religieux. Ah, le fameux pudding qu'un frère irlandais excellait à préparer. Ce nous était une joie sans pareille de voir les flammes bleues de l'alcool courir sur ses flancs dorés, et quand une dernière course affolée, les jolies petites flammes s'évanouissaient, le pudding était débité en tranches succulentes, aux acclamations de tous, pendant que le pauvre frère gémissait sur le pillage d'une œuvre où il avait mis tout son talent culinaire. Enfin apparaissent les mince pies, pâtes feuilletées qui enrobent des hachis de viande, d'épices et de fruits. C'est ce que nous appelons un pâté à l'émincé. Les Anglais arrosent le tout de flots de sherry, vin de Xérès d'Espagne, fabriqué à Londres. Les oranges, les bonbons, les amandes, les noisettes apparaissent au dessert. Le port wine, le vin de gingembre pour les abstainers, personnes qui s'abstiennent de liqueurs enivrantes, le whisky, voire même le gin, jouent un assez grand rôle dans le monde où l'on boit. Dans les universités, notamment à Oxford et à Cambridge, il est de tradition de manger à Noël une hure de sanglier. On l'entoure de romarin et on la sert avec d'interminables salamalecs. À Sandringham, où le roi et la reine d'Angleterre ont l'habitude de passer tous les ans les fêtes de Noël, on a servi cette année comme rôti de Christmas un jeune cygne. Ce cygne a été engraissé par les soins du maître des cygnes de la cour, fonctionnaire qui date des temps antiques et dont la charge consiste à surveiller l'élevage et la nourriture des cygnes qui peuplent les parcs et les jardins des propriétés royales. Il y a 500 ans, le rôti de cygne était un mets recherché des gourmets et figurait à Noël sur les grandes tables. Édouard VII a repris cette tradition et donné ordre à son maître des cygnes d'engraisser une douzaine de ses élèves dont il a fait cadeau à l'occasion de Noël à des familles princières, à quelques hauts fonctionnaires de la cour et aux juges du tribunal supérieur. Le riche anglais veut que son frère pauvre se réjouisse à Noël. Les journaux sont remplis d'appels adressés au public par les sociétés charitables de toute espèce. Les souscriptions abondent et la bourse des particuliers s'ouvre largement pour donner aux pauvres leur part de cette fête nationale. L'hôpital français, situé à Shaftesbury Avenue, est desservi par les sœurs françaises servantes du Sacré-Cœur, reçoit chaque année en surabondance oies, dindons et pudding pour les malades, convalescents et infirmes. Ce détail nous a été donné à Londres même par la supérieure de l'établissement. Dans quelques villes d'Angleterre, le maire reçoit, à l'occasion de Noël, 100 vieillards qui viennent prendre le thé pendant que sa femme réunit des veuves sans ressources. Ailleurs, ce sont des fondations pour dons de viande, de couvertures de laine, de sacs de charbon. Ainsi, la distribution annuelle de la Christmas Parcel Fund de Shoreditch, établie en 1870, a eu lieu au bas de Pitfield Street. 256 des citoyens les plus pauvres de la localité, la plupart ayant une nombreuse famille, ont reçu un paquet d'épicerie contenant une demi-livre de thé, un demi-quart d'une mesure de farine, une demi-livre de sucre et tout ce qui est nécessaire pour faire un bon pudding de Noël, et en plus un ticket pour 100 livres de charbon. Quelques mots aimables furent adressés à l'Assemblée par le conseiller Dr. Davis, président de la société, qui était assisté de l'honorable Claude Hay, MP. Dans quelques workhouses, asile des pauvres, les dames de charité offrent un dîner de Noël complet, roast beef, plum pudding et bière, quand une société de tempérance n'intervient pas pour remplacer la bière par le thé. Dans ces workhouses, on prépare même quelquefois, chose toute nouvelle pour l'Angleterre protestante, une cérémonie religieuse à minuit. Watch service, tout comme les catholiques ont la messe de minuit. Le jour de Noël, un dîner pour plus d'un millier de pauvres est ordonné par la reine d'Angleterre. Sa Majesté, accompagnée de la princesse de Galles et de ses petits-enfants, parcourt les grandes salles, parlant à ses convives d'un jour, les réjouissant de sa présence, alors que d'autre part, elle a fait elle-même des couvre-pieds envoyés à la même époque aux hôpitaux de Londres. Après le dîner de Noël, on se livre à différents jeux. Nous n'en citerons que deux. C'est d'abord le Snapdragon. Sur une large coupe, on place des raisins secs et des amandes que l'on recouvre d'eau naturelle sur laquelle surnage une mince couche d'eau de vie. On allume alors ce punch d'un nouveau genre et il s'agit d'enlever prestement, sans se brûler, raisins et amandes que les ondulations d'une longue flamme défendent longtemps contre toute atteinte. The hide and seek, le cache-cache, se joue dans les vieux manoirs. Et à cette occasion, l'aïeul, de sa voix chevrotante, ne manque jamais de psalmodier la légende du beau Lowe. C'est une Christmas carol qui date, dit-on, du 5e siècle. Notre traduction littérale la donne dans toute sa simplicité. Noël au vieux château, séjour de fête, la fille du noble Biron joue avec ses compagnes. Elle joue à cache-cache. Quelle délice! Elle se cache si bien, qu'elle disparaît et que personne ne peut la redécouvrir. Pas même son fiancé, le jeune et beau Lord Lowe. Les jours, les semaines, les mois, les années passent. 20 ans après, comme on avait besoin d'une nappe pour la table du festin de Noël, on ouvrit par hasard une vieille armoire et on y trouva, oh, horreur, un squelette couronné de roses blanches fanées. Jeune fille, songez à la fiancée du beau Lord Lowe. Le Christmas britannique est surtout la fête des enfants. Les écoles anglaises comptent 2 vacances annuelles. L'une, qui est la plus longue, a lieu en été. L'autre est accordée à l'occasion de Noël. C'est par suite de la présence au logis des enfants dispersés dans les collèges que la réunion de famille est au complet. La veille de Noël, Christmas Eve, les enfants suspendent à leur lit de fer les bas dans lesquels Father's Christmas, le Père Noël, viendra déposer, croit-il ou font-ils semblant de croire, les jouets et friandises qui déposeront réellement leur père et leur mère. Le soir de Noël, les enfants règnent en souverain et comme dans les Saturnales antiques, c'est le monde renversé. Douce tyrannie de quelques heures, car ainsi que le dit Émile Augier, nous n'existons vraiment que par ces petits êtres qui dans tout notre cœur s'établissent en maîtres, qui prennent notre vie et ne s'en doutent pas, et n'ont pour être heureux qu'à n'être pas ingrats. Toute la famille est réunie, alors c'est le bruit des jeunes voix, l'applaudissement des yeux, le trépignement des petits pieds sous la table. Grand-mère réclame le silence. Elle se fait apporter une bouteille de son plus vieux cognac. On arrose le pudding, on éteint le gaz, et le plus jeune des babies s'allume, allume l'eau de vie dont la flamme scintille en reflets bleus, pendant que la turbulente jeunesse improvise une ronde autour de la grande table. Le gaz brille de nouveau et le pudding est gravement entamé. On fait d'abord la part des absents. La poste, dès le lendemain, portera aux colons de la Nouvelle-Zélande, aux sheep farmers d'Australie, aux garnisons de l'Inde et du Cap, ce souvenir si touchant de l'amitié. L'Angleterre célèbre la fête de Noël avec une réelle allégresse. C'est l'époque choisie pour échanger vœux et étrennes. C'est Noël qui est vraiment le jour de l'an et qui sert de transition d'une année à l'autre. Aussi, un grand nombre de Christmas cards partent d'Angleterre pour les quatre coins du monde anglicisé, colonisé par la conquête toujours envahissante du peuple britannique. Empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Nous avons sous les yeux une collection très complète de Christmas cards. Il y en a de ravissantes. Certaines sont sur du papier fin et colorié, quelquefois avec photographie ou bien gravure de gracieux paysages ou de tableaux des grands maîtres. La plupart des vœux exprimés peuvent se résumer dans ceci « With sincere wishes for a very happy Christmas ». X. Avec sincères vœux pour un très heureux Noël et une brillante et prospère nouvelle année de la part de X. Ces cartes sont à la portée de toutes les bourses. Il y en a depuis 10 centimes jusqu'à 50 francs. La Poste de Londres en expédie plus de 60 millions à l'occasion du Christmas. On y joint quelquefois une minuscule boîte contenant quelques grains du pudding de Noël. Toute famille anglaise qui ne reçoit pas à l'occasion de Noël des nouvelles des absents en éprouve un profond chagrin. Et s'il s'agit de proches parents ou d'amis intimes, toute la famille est en deuil. Le lendemain de Noël s'appelle Boxing Day à cause des boxes, boîtes tirelire, que font circuler les facteurs, les laitiers, les porteuses de pain et tant d'autres amis inconnus qui viennent vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année, souhaits auxquels vous ne pouvez mieux répondre qu'en donnant des étrennes. Ce jour-là, la populace profite des trains à bon marché, envahit les endroits où l'on s'amuse et semble oublier tout à fait que Noël est une bonne fête religieuse. L'Anglais porte partout avec lui le souvenir de Noël. Dans ses colonies les plus lointaines, sur les sables d'Afrique ou dans les terres glacées du Nord, il réunit ses compatriotes comme s'il ne formait qu'une famille. Tous ensemble, ils célèbrent le Christmas. Debout, le verre à la main, ils envoient un salut fraternel et leurs vœux de bonheur aux êtres chéris qu'ils ont laissés au-delà de l'océan. Pendant la guerre de Crimée, les dames anglaises furent émues de compassion pour leurs frères malheureux qui, devant Sébastopol, au milieu d'un hiver exceptionnel, faisaient l'admiration de toute l'Europe par leur courage et leur endurance. une souscription nationale fut ouverte dans tout le Royaume-Uni. Quelques jours avant Noël, des navires chargés de volailles, de pudding et de liqueurs partaient pour la mer Noire. Le 25 décembre, les soldats anglais célébraient joyeusement leur Christmas et buvaient au triomphe et à la prospérité de la vieille Angleterre. Un journal de Londres représentait naguère le Christmas dans un corps de garde anglais. La scène est des plus pittoresques. Elle se passe au Transvaal. Les fusils sont dressés en faisceau. Une guirlande de verdure court à travers les canons. Une chandelle allumée brûle au bout de chaque baïonnette. Et les soldats choquent gaiement les verres autour de cet arbre de Noël d'un nouveau genre qui leur rappelle à tous les joies de la patrie absente. N'importe où ils se trouvent, sur le pont d'un navire, sous la tente ou la hutte grossière de l'explorateur perdu dans les glaces polaires, l'Anglais, oubliant un instant ses peines, ses fatigues et ses dangers, ne manque jamais de donner au vieux Christmas la bienvenue de joie et d'espérance à laquelle il a droit. Les catholiques anglais donnent à la fête religieuse de Noël la plus grande solennité. Il faut aller dans la belle et riche église de l'Oratoire à Londres pour y entendre la magistrale musique de Palestrina. En Irlande, le soir de Noël, d'une multitude de maisons, sortent les familles catholiques, chacun tenant à la main une torche de résine allumée. C'est un spectacle d'une étrange beauté. On dirait des flots de lumière ondulant dans les ténèbres. Toutes ces pieuses communautés se réunissent au centre de la paroisse autour d'un cercle de flambeaux immobiles. Citons, en finissant, une page ravissante du vicomte Welch qui raconte une messe de minuit en exil. C'était dans le nord de l'Angleterre, dans un joli château à Standenhall, chez Lord Southwell, fervent catholique, qui pendant les mauvais jours avait offert l'hospitalité à ses parents et amis de France. Nous y étions un jour de Noël. Dès la veille, on avait mis des bouquets de houx bien verdoyants, avec leurs baies ressemblant à des perles de corail. Dans la chapelle, l'autel, le tabernacle, les gradins, les flambeaux étaient en bois d'acajou poli, avec des ornements dorés. Un épais tapis aux plus vives couleurs couvrait les marges du petit sanctuaire. La neige, le froid étaient au dehors, et dans cet immense intérieur béni, tout était propre, chaud et confortable. Dans la tribune en face de l'autel, des places réservées étaient entourées d'un rideau de soie cramoisie. Derrière ce voile étaient le piano-orgue et les personnes qui devaient chanter. Lady Southwell, sœur de ma mère, Lady Gorthmanston, sa fille, Mesdemoiselles de Choiseul, ses nièces, formaient ce cœur de famille. Il y a bien longtemps de cela, mais depuis cette fête de Noël, j'ai compté bien des lendemains de la Toussaint, bien des jours des morts. Parmi celles qui chantaient alors devant l'autel de Standenhall, il y en a qui chantent toujours aujourd'hui devant Dieu, dans le ciel. Bien des années, bien des fortunes diverses me sont survenues depuis le Merry Christmas Time. J'ai entendu depuis les messes en musique de Mozart et de Rossini, et toutes ces années, toutes ces fortunes diverses, tous ces grands talents n'ont pu effacer dans ma mémoire la messe de Noël chantée dans l'exil. Les ritualistes anglais sont excusables jusqu'à un certain point de s'imaginer qu'ils sont catholiques, puisqu'on célèbre encore dans leurs églises des cérémonies qui remontent à 8 siècles et ont survécu à tous les changements que le protestantisme a introduits dans l'église gallicane. Au premier rang de ces cérémonies, il faut mettre l'offrande de l'or, de l'encens et de la myrrhe que la reine d'Angleterre fait tous les ans, le jour de l'Épiphanie, à l'instar des rois mages. Cette coutume remonte à la plus haute antiquité. Pendant plus de 800 ans, les souverains anglais venaient présenter leur offrande en personne, et cet usage ne prit fin que sous le règne de George III, la princesse Caroline étant morte la veille de l'Épiphanie. Depuis ce temps, le souverain est représenté par deux gentilshommes de sa chambre. La cérémonie a lieu dans la chapelle royale du palais de St. James, et voici comment on y procède. On commence par réciter la prière du matin, après quoi l'évêque protestant de Londres, assisté du sous-doyen de la chapelle royale, célèbre le service de communion. Après la récitation du symbole de Nicée, les 10 enfants de chœur de la chapelle royale, dans leur pittoresque costume écarlate avec des collerettes blanches, entonnent l'antienne. « J'ai prié pour obtenir de vous la sagesse. » Alors les deux gentilshommes de la chambre, en habit de cour, l'épée au côté, précédés d'un huissier portant une verge d'argent, s'avancent vers l'autel. L'évêque de Londres vient au-devant d'eux et leur présente un plat en vermeil sur lequel il dépose les offrandes de la reine. Celles-ci sont renfermées dans un sac en soie rouge, brodé d'or, et consistent en 3 paquets en papier blanc scellés avec de la cire rouge. Les 2 premiers paquets contiennent de la myrrhe et de l'encens. Dans le 3e sont 25 souverains en or, tout nouvellement frappés, qui sont distribués à des pauvres des paroisses voisines. C'est depuis 1859 que des pièces de monnaie ont été substituées aux feuilles d'or battues qui formaient la 3e offrande. Leur mission terminée, les gentilshommes de la chambre se retirent avec le même cérémonial observé pour leur arrivée, et l'office s'achève avec la plus grande solennité.